Bienvenue au Mâche Patate, le podcast éclaté des urbains culteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité.
Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités
et on se fait aller Mâche Patate!
Bonjour, bienvenue à Mâche Patate, le podcast des urbains culteurs. Je suis votre animatrice, Marie-Hélène Dubé. Si vous n'avez pas écouté l'épisode 101 qui a été publié en même temps que celui-ci sur l'agriculture sociale, je vous encourage fortement à aller l'écouter dans un premier temps puisqu'il va vraiment mettre davantage en contexte le projet qui est présenté dans cet épisode-ci. Mais pour la petite histoire, ce qu'on va entendre aujourd'hui, c'est une discussion avec une porteuse de projet que j'ai d'abord entendue dans le contexte de l'école d'été en agriculture urbaine à Lausanne, en Suisse, en juillet 2023. J'ai eu la chance de participer à cet événement grâce au soutien financier des Offices Jeunesse Internationaux du Québec, pendant que je compte encore dans la jeunesse. Puis dans l'épisode 101, on a entendu Andrea Bory de Green Care Suisse nous présenter le concept d'agriculture sociale ou care farming. Et on a également discuté de quelques différences entre les réalités québécoises et suisses. Dans cet épisode-ci, on plonge vraiment dans le concret pour découvrir un projet super inspirant qui s'inscrit parfaitement dans cette notion d'agriculture sociale. Je vous invite donc à écouter la discussion que j'ai eue avec Elena Livet, qui est fondatrice du projet L'Échappée verte. Bonne écoute! Bonjour Elena, bienvenue à Mâche Patate. Merci d'être avec nous.
Bonjour!
En commençant, est-ce que tu pourrais nous dire un mot vraiment sur, sur ton parcours, puis qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au monde un peu du care farming?
Alors oui, volontiers. Moi, je suis Elena Livet, je suis ergothérapeute spécialisée en psychiatrie et je me suis formée en ortithérapie. Dans le milieu psychiatrique, l'ergothérapie, elle utilise l'activité comme moyen de travailler des objectifs thérapeutiques. Puis alors moi, j'ai choisi de me spécialiser dans les activités en lien avec le travail de la terre. C'est ce qu'on appelle l'ortithérapie. Et l'échappée verte, cette microferme thérapeutique, elle symbolise un rêve professionnel. Et comme je considère qu'il faut lutter pour ses rêves, j'ai décidé de me donner les moyens d'y arriver par besoin d'être en accord avec mes valeurs dans ma pratique professionnelle. Qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser au care farming? Alors, moi, je suis une fascinée de la nature et du contact avec l'humain, mais surtout, je suis passionnée par le lien qui nous unit à la nature. Et je suis juste convaincue des bénéfices du travail de la terre et du contact avec le vivant pour améliorer notre qualité de vie et puis pour soigner notre être. Donc, l'idée, elle vient aussi, en fait, de l'envie de mettre en place une initiative positive pour l'humain, pour la planète, d'agir ensemble pour un monde meilleur. Voilà.
Est-ce que avant de fonder le projet, tu avais d'ailleurs une expérience toi personnelle, soit de jardinage ou d'avoir un peu, soit travaillé sur des fermes? Est-ce que tu connaissais un peu ce milieu-là?
Oui, complètement. J'ai toujours été en lien aussi avec la nature. J'ai toujours eu mon petit potager. J'ai aussi participé à des projets un peu plus grands, dont un qui était au Mexique, où on avait un jardin partagé avec la communauté. On faisait des activités avec les enfants. J'ai participé à plusieurs projets communautaires. Et puis principalement, juste moi, c'est un lieu de ressourcement depuis toujours, la nature, en fait.
Ben. Si tu veux nous parler vraiment de l'échappée verte directement, on l'a mentionné, mais en quoi consiste vraiment le projet?
Alors du coup, l'échappée verte, c'est une micro-ferme thérapeutique qui est située sur un terrain agricole de 13 000 m² à 1300 mètres d'altitude sur la commune de Grand-Montana, ici en Suisse, sur le canton du Valais. Le projet, il a deux objectifs principaux. Le premier, c'est de favoriser l'insertion sociale de requérants et de requérantes d'asile ayant des besoins d'accompagnement spécifiques. Et le deuxième, il est de sensibiliser la population locale au développement durable dès leur plus jeune âge. Pour répondre au premier objectif, en fait, l'échappée verte, elle propose 20 places d'occupation porteuses de sens pour des requérantes et des requérants en souffrance psychique, au sein desquelles des compétences en maraîchage biologique sur sol vivant sont transmises par des professionnels spécialisés dans ce domaine, mais aussi des compétences en menuiserie qui sont développées lors de nos activités hivernales où nous accueillons les bénéficiaires dans un atelier partagé où on fabrique tout ce qui est nos structures en bois qui sont nécessaires pour le projet comme la roulotte, les toilettes sèches, le poulailler, etc. Et puis où on réalise aussi des activités artisanales. Donc en fait, les activités de maraîchage et de menuiserie sont elles-mêmes le support pour effectuer un accompagnement psychosocial qui permet d'identifier les symptômes de détresse et de recenser les ressources individuelles existantes afin de les valoriser. Donc nous, on prête une attention vraiment particulière au cadre. Le cadre de travail, c'est vraiment un lieu qui est bienveillant, qui est sécuritaire et qui est adapté aux besoins et aux ressources de la personne. Il y a aussi un bilan régulier qui est organisé avec l'ensemble des professionnels qui gravitent autour du bénéficiaire. Donc le référent du foyer où loge le bénéficiaire, l'éducateur social, le traducteur et le bénéficiaire. C'est un moment de partage qui renforce le lien thérapeutique par la valorisation de leur travail, mais aussi c'est un moment d'échange où on peut recueillir des informations importantes pour observer les bénéfices du projet sur leur santé psychique, réadapter si besoin, fixer les nouveaux objectifs et mettre en place tout ceci. Donc pour conclure un peu, pardon.
Mais non, j'allais juste te demander, ben, je comprends qu'il y a différents intervenants qui entourent les participants, mais est-ce qu'il y en a plusieurs qui sont avec eux sur le terrain en plus de toi? J'imagine que tu n'es pas suffisant. Ça fait beaucoup de gens à gérer d'un coup, donc il y a d'autres intervenants en même temps.
Oui, on est au total actuellement quatre. On est en train d'ouvrir un poste pour une cinquième personne. Et moi, j'ai vraiment cette référence thérapeutique qui fait ce lien avec les autres intervenants pour vraiment avoir ce suivi psychosocial. Et puis pour les autres, on a chacun un peu des rôles différents, mais on a tous une mission d'accompagnement des participants sur le terrain, de coaching, d'encadrement, de partage des compétences, d'écoute, de faire attention à ce cadre bienveillant et sécuritaire, etc. Et du coup, pour conclure avec ce premier objectif, en fait, l'échappée verte, elle répond à des besoins qui sont des besoins primaires et basiques qu'on appelle un peu les besoins fondamentaux, de l'humain, qui sont par exemple être en activité, structurer ses journées, ce qui aide souvent à améliorer le sommeil, mais aussi mobiliser ses ressources et ses compétences, les mettre au profit d'un projet, se sentir appartenant à un groupe, prendre soin de soi, prendre soin de l'autre, écouter son rythme, apprendre des nouvelles compétences. Enfin voilà, c'est vraiment des besoins en fait qu'on appelle des besoins primaires et basiques auxquels l'échappée verte tente de répondre par ses activités. Et puis pour répondre au deuxième objectif, qui est celui de sensibiliser la population locale au développement durable, en fait on a élaboré avec les écoles des villages avoisinantes un partenariat. L'idée, c'est d'accueillir vraiment une mixité intergénérationnelle, interculturelle, d'ouvrir cet espace, ce lieu vers l'extérieur. Du coup, on a effectué tout un programme d'activités où on accueille plusieurs classes, plusieurs fois dans l'année, à différents moments, surtout dans les changements de saison. Et on propose différentes activités comme le canapé forestier, du maraîchage à petite échelle. Les semis, plantons, entretien des cultures, transformation, etc. Et donc aussi, l'échappée verte, elle a mis en place un circuit court de distribution. En fait, sa production, elle est acheminée dans les foyers où logent les bénéficiaires. Du coup, ça faisait quelque chose d'important pour le projet aussi que ces personnes, elles puissent avoir aussi accès à une alimentation locale et biologique. Et par la même occasion, valoriser leur travail aux yeux des autres cohabitants du foyer, en fait.
Ben oui.
Voilà.
Super. Puis quand les classes viennent, quand les jeunes viennent, est-ce qu'ils sont là en même temps que les participants du volet 1? Ça, ils se côtoient?
Bien sûr, vraiment,
Super.
l'idée, c'est que les ateliers soient animés par les bénéficiaires du projet et nous autres.
OK, parfait. Et là, j'ai vraiment une question de non-connaissance de la Suisse, du milieu éducatif, mais est-ce que pour faire venir des classes comme ça, puis est-ce qu'il faut que ça s'intègre vraiment bien dans leur programmation scolaire? Est-ce que c'est difficile un peu de faire ce lien-là? Ou tu sais, il y a une belle réception, puis les enseignants d'enfants sont super contents de venir parce que ça remplit bien ce qu'ils ont à montrer.
Alors, c'est vrai que les enseignants, ils ont quand même une lourde charge qui est de pouvoir répondre au programme d'études qui s'appelle le programme d'études roman ici en Suisse. Et puis, nous, on a collaboré de proche avec une enseignante d'enseignants qui vraiment donne tous les outils pour donner de la confiance aux enseignants à sortir en pleine nature. Donc elle a repris, c'est vraiment un gros bouquin où elle reprend chaque item du cours, enfin du plan d'études, et puis des activités qu'elle propose, elle met en lien justement bah, quels items est travaillé durant telle activité. Et donc nous, on a vraiment créé le programme avec cette femme qui est d'une ressource incroyable. Et d'autant plus, les écoles avec lesquelles on collabore, en fait, ils ont tous eu accès à cette formation avec cette femme. Ce qui fait que ils ont une base. Après, pas tout le monde est confiant et ouvert à aller vers l'extérieur, mais en tout cas, eux, ils ont en fait tout à disposition.
Parfait.
Et puis, on co-crée le projet avec eux et ils ont aussi un espace où ils peuvent venir en dehors des activités que nous nous proposons, où ils peuvent venir enseigner et travailler d'autres plans, d'autres programmes sur place.
C'est intéressant. Puis j'avais aussi une question par rapport plus aux participants, donc du premier objectif. Parce que tu parlais d'une vingtaine de participants, est-ce qu'il y a comme des critères? Est-ce qu'il y a trop de gens qui voudraient participer, par exemple, puis il vous faut comme trier ou comme limiter la participation? Comment ça se passe à ce niveau-là?
Alors, pour le moment, les critères sont. Il y a un critère principal qui est le critère d'une certaine stabilité psychique. C'est-à-dire que la personne, elle ne peut pas arriver en crise au projet. Alors, c'est aussi nuancé parce que voilà, chaque personne vit des cycles, vit des moments plus ou moins compliqués, arrive au projet avec les ressources et les difficultés qu'ils ont. Et puis nous, on adapte aussi en fonction justement de la situation de la personne. Mais en général, vraiment, la seule condition, c'est qu'il y ait une certaine stabilité psychique. Ça veut dire pas de crise aiguë qui nécessite vraiment un autre type d'accompagnement qui est plutôt hospitalier. Voilà. Et puis nous, en fait, actuellement, comme on est dans cette première phase, notre première année, il y a eu toute une phase pilote, puis là, on est dans la première année. On est encore en train de peaufiner notre partenariat, entre autres, avec l'asile. Et puis, c'est en fait l'asile qui s'occupe d'amener les participants. Et actuellement, la limite, bah, c'est un petit peu le bus, en fait, le bus qui les amène. Donc, actuellement, on n'a pas plus de 12 personnes, en fait. On n'est pas encore arrivé à notre limite des 20.
Puis la limite des 20 est plus au niveau de vous, votre capacité d'accompagnement, puis la quantité de tâches qu'il y a à faire sur la ferme, j'imagine.
Exactement, exactement. Faut que ça reste. Faut que ça reste harmonieux, harmonieux pour nous, harmonieux pour l'équipe et harmonieux pour les activités à effectuer sur le lieu, oui.
Est-ce que tu voudrais aussi nous parler un peu de comment est géré le projet? Est-ce que c'est comme une association en soi? Peut-être pas au niveau légal, là, mais comment c'est organisé comme type de projet?
Donc, le projet, il est né d'un partenariat privilégié entre deux fondations, la SWO, qui est une fondation zurichoise. Qui est une fondation de protection de l'environnement, et puis FXB, qui est une fondation valaisanne, qui nous a mis à disposition un terrain, le terrain justement à Crans-Montana, mais aussi l'expertise d'une collaboratrice dans tout ce qui est recherche de fonds. Donc, on est actuellement 4 employés qui fonctionnant en gouvernance partagée. Il y a toujours au minimum 2 personnes qui accompagnent l'ensemble de l'équipe. On a aussi pas mal de réunions extra qui permettent d'organiser tout ce qui est la planification des étapes avec les participants. Puis on est aussi très ouvert à ce que les participants ont envie d'amener au projet. On fait toujours une place aussi pour ça. Et en ce qui concerne la gestion financière, donc actuellement, les 3 premières années, elles sont sécurisées grâce à un financement qui est à la fois privé et public, notamment le partenariat avec l'asile. Il y a aussi la commune de Crans-Montana qui nous soutient. Puis après, on a Projet Santé, on a l'Agenda 2030 qui sont voilà, des partenaires financiers pour le projet.
OK, parfait. Puis pour le terrain, justement, tu dis que ça a un peu été mis à disposition par la fondation. Pourquoi la fondation avait des terrains agricoles, en fait, à la base?
Alors, c'est assez incroyable. Moi, j'ai été toquée à la porte de la SWO pour leur dire j'aimerais bien mettre en place une micro-ferme. thérapeutique. Est-ce que vous êtes d'accord de me soutenir, sachant qu'une des missions de cette fondation, c'est de soutenir des projets qui ont des valeurs en commun. Et au même moment, en fait, FXP toquait à la porte de l'ASVE en disant, c'est super ce que vous faites. Nous, on a un terrain agricole à disposition. Vous ne voulez pas faire quelque chose de super? C'était un bel alignement. Et puis, ce terrain, en fait, il appartenait justement à la directrice, en fait, à la fondatrice de FXB. C'est un terrain dont elle a hérité, en fait.
Oh, en tout cas, c'est une belle coïncidence, hein? Les choses
Oui,
se bien. Ouais.
hein.
Le partenariat, plus justement avec l'asile, comment ça s'est fait? Pourquoi tu es allé peut-être vers cette population-là, puis comment ça a été reçu comme idée?
Le projet, il est parti de deux constats, non? Cette réalité migratoire actuelle et la réalité climatique. Et puis, avec vraiment cette envie de pouvoir être actrice, de pouvoir aussi défendre et faire quelque chose. Je sais qu'il y a un grand pourcentage de requérants d'asile qui souffrent d'un syndrome de stress post-traumatique suite à leur parcours migratoire complètement traumatisants et qui ont des conséquences importantes et paralysantes sur leur vie quotidienne. Puis la plupart des migrants, ils souhaitent subvenir eux-mêmes aussi rapidement que possible à leurs besoins. Mais c'est souvent difficile, voire impossible, à cause de plusieurs raisons, entre autres les restrictions dues à leur permis de séjour, leur permis de travail, le manque de reconnaissance de leur formation, les lacunes en la langue du pays d'accueil, ici en français. Leur statut psychosocial précaire ou encore simplement leur santé psychique en détresse. Du coup, il y a beaucoup de requérants qui se retrouvent sans occupation, ce qui est un véritable fléau pour une personne qui cherche l'intégration et qui a déjà vécu de nombreuses ruptures. Et on sait que l'inoccupation de longue durée, elle peut agir de façon destructrice sur les personnes. Typiquement, l'absence de reconnaissance sociale, l'isolement, les maladies puis les souffrances psychiques qui vont de pair. Donc cette situation, elle est d'autant plus marquée et préoccupante pour les personnes qui présentent une santé psychique fragile due à leur parcours migratoire traumatisant. Et après notre enquête auprès des centres d'asile, il y a un réel besoin de places d'occupation adaptées à des personnes vulnérables. Et ces personnes, elles se retrouvent en fait en échec dans les ateliers qui sont actuellement proposés par l'asile. Ce qui fait qu'ils se retrouvent en fait isolés dans les foyers, sans occupation significative, un peu en errance, très honnêtement, ce qui engendre régulièrement une diminution de leur autonomie, de leurs compétences sociales, une augmentation des symptômes négatifs de la maladie et donc une impossibilité d'intégration. Et du coup, vraiment, ça part de ce constat-là, en fait.
Effectivement, il y a beaucoup de besoins.
Oui.
C'est un beau pairage d'opportunités et de besoins, je pense. Est-ce que, là, tu disais donc c'est la première année, disons, officielle, mais il y avait une phase pilote avant. Est-ce que vous constatez, tu es déjà en mesure de voir un peu des résultats, comment ça évolue, quel genre d'impact tu vois sur les participants, mais sur vous aussi, j'imagine?
Alors, vraiment, le bilan, il est très positif. On vient juste de rendre notre premier rapport semestriel. C'est un rapport qu'on envoie à tous les donateurs et qui est vraiment un moment hyper intéressant de prise de recul, d'analyse du projet. On a eu le témoignage aussi des différents professionnels qui gravitent autour des bénéficiaires, notamment ceux qui accompagnent au niveau du foyer. Donc, on a eu déjà aussi des très jolis retours de leur part. Et puis, voilà, nous-mêmes, on constate, c'est un exemple peut-être un peu classique, mais voilà, la première per une personne qui arrive pour la première fois et qui est complètement renfermée, complètement apeurée, et qui petit à petit, en fait, s'ouvre. Et là, j'ai en tête une personne qui arrive le matin et qui sort du bus en criant Salut! C'est juste incroyable. Et puis dans leurs compétences aussi, les voir évoluer, les voir prendre leur place, eux amener aussi des techniques agricoles qu'ils utilisaient dans leur pays, ce qu'on appelle vraiment en fait l'intégration créative, non? De pouvoir à la fois s'adapter au pays d'accueil, mais aussi ramener quelque chose de soi, de ses racines dans ce pays d'accueil, dans ce projet-là. C'est vraiment très agréable. C'est très, très agréable. Moi, je me sens très chanceuse de pouvoir vivre, de pouvoir vivre ça avec eux et de pouvoir les voir évoluer. Et voilà.
Ouais, ah ouais, ça doit être très, très enrichissant dans tous les sens. Au niveau des élèves qui viennent participer, là, des groupes scolaires, tu vois aussi une belle participation, un bel enthousiasme?
Alors, ça devrait en fait commencer à l'automne,
Ah, d'accord,
la
ok.
collaboration. Il y a eu toute la phase pilote où on accueillait moins officiellement des petits, des enfants de la crèche en nature qui venaient participer. Mais voilà, le suivi vraiment école, ça sera à partir de cet automne.
Ok, parfait, à suivre.
Ah, c'est vrai.
Je réalise aussi, mais c'est peut-être un peu difficile à l'audio, mais qu'on a peu parlé de ce qu'avait l'air la ferme. Tu as parlé un peu de la superficie puis de l'altitude. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu peux nous dire juste pour des. Je sais que tu as nommé rapidement un poulailler tantôt, par exemple. Est-ce que tu peux un peu essayer de nous décrire les lieux?
Avec plaisir. Alors, du coup, donc le lieu, il est à 1300 mètres d'altitude, en plein cœur d'une forêt, en fait. C'est vraiment une prairie qui est bordée par de grands arbres, des grands sapins, en fait. On a une vue juste incroyable. Il y a
J'imagine.
un cours d'eau qui arrive là et qui passe juste à côté du terrain. Et puis, sur ce terrain, en fait, quand on arrive, il y a des petites places de parking là à gauche, et après on aura trois grandes serres qui sont pas encore montées, mais on a trois grandes serres de culture. On a un espace de culture extérieur qui n'est pas sous serre et qui a été dessiné en K-line design, donc en suivant les courbes de niveau, qui donne vraiment un aspect esthétique assez organique, assez chouette. Ensuite, au loin, on a déjà préparé aussi les buts pour les fruitiers et les petits fruits, qui est aussi dessiné sur les courbes de niveau, où on a creusé une baissière pour dévier l'eau d'irrigation du BIS, qui viendra en fait acheminer, enfin alimenter chaque but. En descendant en bas à gauche, on a en fait le jardin forêt, qui est un lieu qu'on va petit à petit aménager avec les enfants, justement. Au centre, on a une grande fleur de maraîchage qui est en fait une fleur avec des pétales, avec son chemin qui représente la tige et puis les feuilles. Et chaque pétale, elle est dédiée à des classes où eux, ils vont pouvoir en fait expérimenter à petite échelle ce que nous, on fait à plus grande échelle. Ensuite, on a une roulotte qu'on a construite nous, qu'on a récupéré un vieux char agricole et puis on a construit durant tout l'hiver passé, qui est notre lieu de pause et notre lieu au sec. Juste à l'arrière, il y a le poulailler qui accueillera une vingtaine de volailles pour le moment. Et puis, bah, il y a tout un circuit, en fait, il y a des arbres fruitiers. On a planté une dizaine d'arbres fruitiers de variétés adaptées à l'altitude et de variétés indigènes. Et puis, juste à l'entrée, qui est aussi, en fait, la sortie, parce qu'il y a tout un parcours. On est invité à parcourir, en fait, ce lieu. Qui est aussi dessiné sur des buttes qui sont plutôt des buttes fleuries, des buttes décoratives, des buttes mellifères pour accueillir les personnes sur le lieu.
L'air magnifique. Ça a l'air un très, très bel endroit où passer ses journées. Mais en même temps, j'imagine qu'effectivement, l'altitude, c'est quand même un défi pour les cultures et d'où les serres, entre autres. J'imagine que c'est une des raisons pour lesquelles vous ajoutez des serres.
Exactement, exactement.
Merci pour la description.
Plaisir.
Donc là, c'est ça, on comprend que c'est la première vraie, en guillemets, année pour le projet. Où en est le projet? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Où vous en êtes?
Alors oui, en effet, on a fini le projet pilote, en fait, la partie pilote, et puis on a attaqué cette première année sur notre lieu définitif en novembre 2023. Comme vous avez compris, l'hiver, on les passe dans un atelier de menuiserie au chaud et au sec. Et en fait, actuellement, on accueille l'équipe sur un lieu provisoire en plaine parce qu'on a eu un voisin qui s'est opposé au projet. Ce qui fait qu'on a dû arrêter momentanément le projet sur son lieu définitif. C'est une affaire qui est en cours, qui est dans les mains d'avocats. Nous, on est assez confiants pour la suite. Ils doivent là nous donner une réponse dans les prochaines semaines. Je me suis surtout aperçue qu'en fait, le projet de l'échappée verte, c'est pas en soi un lieu, un endroit précis. C'est, en fait, ce projet, il a déjà une âme et où qu'il soit, les objectifs, ils sont travaillables, ils sont là, ils sont atteignables, en fait. Alors, ça a vachement renforcé le projet. Et puis, bah, en fait, concernant ce lieu provisoire, on a recommencé à zéro, sur un espace bien plus petit. Et puis là, actuellement, on est en pleine récolte. Le jardin, il est juste incroyablement abondant, même trop pour la suivi de, pour la, pour le suivi des cuisines des foyers, en fait. Donc là, on est en train de vraiment d'ajuster et puis de s'apprivoiser en quelque sorte. Et puis voilà.
Donc, maintenant, quelles seraient les prochaines étapes pour le projet, en fait? Tu as entre autres nommé que les groupes scolaires s'en venaient à l'automne, mais qu'est-ce qui s'en vient d'autre pour le futur?
Alors nous, on se réjouit de retrouver notre terrain de 13 000 mètres carrés à 1 300 mètres d'altitude sur la commune de Cran. On se réjouit de commencer à monter les structures parce que du coup, tous les espaces de toutes les zones de culture, elles ont déjà été aménagées. Maintenant, on aimerait pouvoir monter nos serres de culture, monter notre roulotte, nos toilettes sèches. Ouais, simplement continuer à aménager le lieu, à accueillir, à prendre soin de l'humain, de la nature et puis du lien qui les unit.
Super. Ben, je vous souhaite un bon retour sur votre terre qu'on espère rapide. Puis, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec moi aujourd'hui. C'est fascinant. Si je retourne en Suisse, j'espère vraiment visiter l'échappée verte. Ça a l'air juste magnifique et c'est un projet vraiment inspirant. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, en entendant Elena et son collègue Jean-Marie qui présentaient l'échappée verte quand j'étais à Lausanne, puis je pouvais voir des photos en plus, ben j'ai vraiment eu un coup de cœur. C'est le genre de projet qui me donne tout de suite envie de m'impliquer. C'est connu et documenté que ça fait du bien de mettre les mains dans la terre, mais au-delà du contact avec la nature, je trouve que la création de liens, la communauté qui se crée autour d'un projet agricole, l'apprentissage, le développement de soi, c'est tout autant, sinon plus intéressant que la pure ortothérapie. Puis ici, au Québec, il existe quand même de nombreux projets d'ortothérapie ou de thérapie par la nature. Je pense notamment à l'Institut Douglas à Verdun. Il existe aussi des camps de jour thématiques puis des fermes pédagogiques, comme la ferme Marichelle, par exemple, qu'on vous présentait dans l'épisode 23. Je connais aussi de nom quelques fermes d'intégration sociale, comme Des-Trois-Pierres à Pierrefonds, Les Jardins de la Terre à Saint-Paul-d'Abbotsford, Jeunes au travail à Laval, ou encore le centre Berthe Rousseau à Durham-Sud. Et il y en a certainement d'autres que je ne connais pas. Puis, il existe également des fermes sociales ailleurs au Canada. Je peux notamment citer Green Care Farms à Milton, en Ontario, qui a une programmation qui s'adresse aux personnes qui vivent avec de la démence, ainsi que Green Care Farm également, qui a donc à peu près le même nom, à Edmonton, un projet pour les adultes sur le spectre de l'autisme cette fois. Par contre, j'ai pas connaissance de projets vraiment plus larges ou de réseaux qui existeraient pour mailler ces projets agricoles-là. Si vous en connaissez au Québec ou au Canada, écrivez-moi à mâche-patate@urbainculteur avec un s.org. Donc mâche-patate@urbainculteur.org. Ça m'intéresse vraiment de le savoir, de le découvrir s'il y a de tels réseaux. Entre-temps, je vous laisse quelques liens et vidéos relatifs au projet de l'échappée verte. Comme je le disais en introduction de l'épisode 101, ces deux épisodes spéciaux sont publiés en attendant le retour officiel d'une saison de Mâche-Patate que nous sommes toujours en train de réfléchir et de retravailler, mais c'est toujours dans les plans, donc on devrait vous revenir sous peu. D'ici là, bonne fin de saison de jardinage! À bientôt!